Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour, bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence et de ce nouveau numéro de Métropolez-vous. Jean-Luc Moudenc, récemment réélu à la présidence de Toulouse Métropole, l'a annoncé. L'écologie, la préservation de l'environnement, le développement durable, la qualité de l'air et la transition énergétique sont une des principales priorités du mandat qui vient de s'ouvrir. On sait que c'est également une des premières préoccupations des citoyens des métropoles françaises, entre autres parmi les jeunes générations. Il y a là un défi à relever dans un contexte de réchauffement climatique. Mais sur quelles actions, sur quels projets va s'appuyer la politique de la métropole toulousaine en matière d'écologie et de développement durable? Le début des travaux de démolition de l'ancien parc des expositions, préalable à la réalisation du futur parc urbain de l'île du Ramier, nous offre un très bon exemple pour illustrer ce thème. C'est un des grands chantiers, un des grands projets de Toulouse Métropole pour les années à venir. Démolition de l'ancien parc des expositions, chantier du futur parc urbain de l'île du Ramier. Quelle politique de développement durable pour la métropole toulousaine? Voilà donc les sujets du présent numéro de Métropolez-vous. François Chollet est conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, mais il est également le nouveau vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique. Il a eu la gentillesse de répondre à mon invitation pour en parler avec nous, ce dont je le remercie. Bienvenue à vous aussi, monsieur le vice-président. Alors, puisque c'est un des grands enjeux de ce nouveau mandat, pouvez-vous nous indiquer quelle feuille de route Jean-Luc Moudenc vous a donnée en tant que vice-président de la compétence écologie, développement durable et transition énergétique de Toulouse Métropole? Quel en est l'esprit? Quels en sont les axes forts?
Alors c'est vrai que l'écologie, le développement durable, la transition énergétique sont des éléments très importants dans ce mandat et Jean-Luc Moudenc a voulu d'abord continuer de gérer cette thématique en direct, un peu comme il l'avait fait pour les contrats de ville au cours du dernier mandat. Et puis ensuite, il souhaite imprimer un changement de logiciel quelque part. En interne, chacun des services, par exemple, se voit imprimer une connotation de développement durable dans les décisions qu'il prendra. C'est valable pour l'urbanisme, c'est valable pour l'aménagement, c'est valable pour le logement, c'est bien entendu valable pour les transports, pour la voirie, pour les déchets. Et donc il y a là une préoccupation qui s'étend en interne et qui devient extrêmement prégnante dans le quotidien de ce qu'est Toulouse Métropole. Alors après, en matière d'axes, et d'axes visibles, il y a quand même quelques axes qui sont extrêmement importants. Il y a celui de l'énergie, il y a celui du climat, qui sont des axes majeurs, il y a celui des déplacements, qui constitue probablement un changement comportemental à induire dans nos pratiques quotidiennes, qui est capital dans les années qui viennent et qui nous préoccupent. Tous ces axes sont portés par des grands textes, en fait, finalement, que ce soit pour l'urbanisme, par ce qu'on appelle le PLUIH, qui fixe les règles d'urbanisme, qui sont adaptées et qui continueront de s'adapter au développement durable. C'est le plan climat air énergie territorial, qui est ce grand texte qui résume nos ambitions et que nous sommes en train de modifier, d'adapter aux ambitions édictées au cours de la campagne électorale récente qui a conduit à l'élection de Jean-Luc Moudenc et de sa liste à la mairie de Toulouse et aussi à la présidence de la métropole. Donc voilà un peu l'état d'esprit. Donc au-delà de tout ceci, c'est un changement profond dans la méthode de travailler, mais aussi dans les ambitions et aussi dans l'état d'esprit qui règne. Non pas que les choses n'existaient pas auparavant, au contraire, beaucoup avait été fait au cours du précédent mandat. Quelques exemples sur les logements, sur la qualité de l'air qui s'est quand même améliorée, notablement au cours de ces dernières années. Mais là, il est temps, et c'est Jean-Luc Moudenc l'a souhaité, de passer à une étape supplémentaires de façon à engager Toulouse Métropole d'une façon peut-être plus éclatante dans le développement durable et la transition énergétique.
Eh bien, merci pour ces premières indications sur la politique de Toulouse Métropole en matière d'écologie et de développement durable. Nous entrerons un peu plus en détail avec vous tout à l'heure. Dans l'immédiat, nous allons retrouver Corinne Saint-Félix et son flash d'information métropolitaine hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu.
«
Et première information que nous portons à votre connaissance, ce sont les experts de la mission Toulouse Territoire d'Avenir qui ont rendu leur rapport.
Oui, c'est une commission d'experts qui avait été initiée au début du mois de juillet avec une mission, réfléchir à l'avenir de Toulouse. Les personnalités très diverses ont travaillé sur l'avenir de l'aire urbaine. Parrainée par l'économiste et prix Nobel Jean Tirole, la commission a rendu 11 propositions. Parmi elles, promouvoir une agriculture climatique éco-responsable, conforter, transformer et diversifier l'activité industrielle en faisant de Toulouse la capitale du nouvel espace via la fabrication de satellites miniatures, mais aussi créer des campus de formation pour l'industrie ou développer une stratégie d'aménagement de Toulouse pour le climat. Il s'agit aussi d'accroître le rayonnement scientifique de l'aire toulousaine. Autre mesure avancée, miser sur la nature et la culture occitane via par exemple un grand musée thématique dédié au rugby ou à l'histoire de la région.
Autre information importante pour l'avenir de notre territoire, à Toulouse, l'État a détaillé son investissement de 2 milliards d'euros pour la santé numérique.
Oui, l'annonce a été faite lors du salon de la mêlée numérique à Toulouse. Cet investissement va permettre de donner un coup d'accélérateur pour rattraper le retard dans la modernisation, l'interopérabilité, la réversibilité, la convergence et la sécurité des systèmes d'information en santé. Une grande partie de cette enveloppe va être injectée dans le partage des données de santé. Cela concerne à la fois les antécédents médicaux, maladies, prestations de soins réalisées et résultats d'examen, traitement ou encore handicap. Ce plan de relance de la santé numérique va permettre de créer un espace numérique de santé pour chaque Français, un espace sécurisé qui sera doté d'un catalogue d'applications médicales labellisé par l'État. L'Occitanie compte de nombreux professionnels de la santé numérique, notamment dans le domaine de la télémédecine, des compétences et technologies qui peuvent intéresser le site InnovePol Santé, la plateforme d'accélération des innovations en santé du CHU de Toulouse.
Et nous terminons avec une nouvelle qui concerne justement l'écologie et le développement durable. La première injection de biométhane dans le réseau urbain de distribution de gaz a été réalisée.
Oui, la première injection de biométhane issue de la purification du biogaz produit au cours de la digestion des boues d'épuration de l'usine de dépollution des eaux usées de Ginestous-Garonne a eu lieu avec succès. Des molécules de gaz vert ont donc été injectées dans le réseau de gaz naturel public. Le site de la station d'épuration existante de Ginestous-Garonne se dote d'une unité de méthanisation de nouvelle génération pour valoriser les boues urbaines obtenues lors de l'épuration des eaux usées et sans gêne olfactive. D'ici la fin de l'année, l'unité de méthanisation produira environ 150 000 kWh par jour de biométhane. Dès 2021, la production de ce gaz vert permettra de fournir en chauffage et en eau chaude l'équivalent d'une commune de 11 000 habitants ou en carburant de 130 autobus.
C'était le flash d'information métropolitaine hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Alors, François Chollet, peut-être une réaction à certaines informations de ce flash, ou même à toutes, si vous le souhaitez.
Peut-être une réaction sur l'injection de biométhane. On est là vraiment dans le cadre de la transition énergétique. Il s'agit d'un programme important. La méthanisation et la production de biogaz fait partie des objectifs de cette métropole, et donc cette première injection de biogaz est sincèrement importante. Elle s'inscrit dans une politique plus globale, avec le développement de l'hydroélectricité, avec le photovoltaïque aussi, que nous souhaitons mettre au premier plan rapidement dans cette métropole, et aussi avec le développement des réseaux de chaleur et de l'utilisation finalement de nos déchets qui deviennent des ressources. Et c'est un peu ça la méthanisation, c'est un peu ça aussi l'économie circulaire, c'est comment réutiliser nos déchets, faire de nos déchets des ressources.
Comment recycler ? On va justement parler dans quelques instants. Merci de nous avoir donné tous ces compléments d'informations. Nous allons poursuivre notre discussion en revenant au sujet principal de ce numéro, démolition de l'ancien parc des expositions, chantier du futur parc urbain de l'île du Ramier. Quelle politique de développement durable pour la métropole toulousaine ?
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
suite de Métropole et vous avec l'invité de ce numéro, François Cholet, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique. Comme je l'annonçais en début d'émission, le parc urbain de l'île du Ramier, futur poumon vert de la ville de Toulouse et de la métropole, est un des grands projets du présent mandat, notamment en ce qui concerne la végétalisation de l'espace urbain. Un des préalables à sa réalisation est la démolition des bâtiments de l'ancien parc des expositions situé sur ce site. La démolition vient de commencer, mais elle ne se fait pas n'importe comment. Elle s'inscrit aussi dans une démarche de développement durable. Quels objectifs avez-vous fixés à l'entreprise qui réalise ces travaux et comment va être menée cette opération de démolition ?
Alors c'est vrai que c'est une opération que nous voulons emblématique. D'économie circulaire, cette déconstruction du parc des expositions. Nous avons articulé finalement cette démolition avec un autre grand chantier métropolitain qui est celui du MIT, du nouveau parc des expositions. Il s'agit d'un travail préalable qui a eu lieu sur la réutilisation des matériaux, des enrobés qui, issus du parc des expositions, seront réutilisés pour les voiries et pour les abords du nouveau parc des expositions du PEX. Donc là, c'est un partenariat qui est un partenariat local avec les entreprises de déconstruction qui ont adhéré à cette démarche, avec Emmaüs aussi, et je tiens à le dire parce que ce sont des ressources de réemploi qui ont été identifiés. Par exemple, la charpente de bois du hall 4, il y a des éléments sanitaires qui sont récupérés, de chauffage, des portes coupe-feu, par exemple, qui sont récupérés. Donc, c'est une nouvelle façon de faire qui est celle de économie circulaire et BTP, finalement, et qui s'est créée à propos de ce chantier-là. C'est une procédure qui a vocation à s'étendre. 90% de valorisation des ressources, ce qui ne sont plus des déchets finalement.
C'est la performance. Recycler
et on réutilise. Et ça, c'est nouveau. Et c'est, nous l'espérons et nous souhaitons le promouvoir, une boucle économique locale en émergence. C'est une nouvelle façon d'impliquer le BTP dans la réutilisation des déchets.
Combien de temps devrait durer ce chantier ?
Alors, il dure plusieurs mois. Il dure au moins 6 mois. Et puis, on va en voir les étapes. Et donc, avec la maturation en parallèle du MIT à Haussonne.
Quels aménagements vont faire suite à ces travaux de déconstruction ? Parce qu'il y a une question de renaturation du site, par exemple.
Ah oui, et d'abord, il y a une question de restauration des qualités du sol. Vous avez 10 hectares qui sont imperméabilisés depuis plusieurs dizaines d'années et qui sont des sols au-dessous considérablement appauvris en termes microbiologiques. Et donc, il y a une année, l'année qui s'ouvre là actuellement, d'analyse de la capacité des sols et de restauration des sols. Et nous allons mener avec des scientifiques, des expérimentations de témoins pour justement apprécier au mieux la qualité
la
des
situation,
sols. Ah oui, la situation telle qu'elle est, et puis sa réversibilité. Et peut-être faudra-t-il à certains endroits excaver et amener de la terre fraîche. Mais en tout cas, il y a là toute une période de restauration des sols qui est extrêmement importante sur ces 10 hectares. Et c'est en fait, Toulouse Métropole est accompagnée par un groupe de scientifiques, de chercheurs spécialisés en géologie, en microbiologie des sols. C'est une compétence qui n'existe pas en propre, évidemment, au sein de la métropole. Et c'est ce partenariat avec ces chercheurs et scientifiques qui va nous permettre d'optimiser cette phase de restauration des sols. Alors après, c'est vrai que cette restauration des sols est suivie de la végétalisation et puis d'un travail sur la biodiversité qui nous paraît extrêmement important avec un état des lieux qui a été fait. Cette véritable conviction qui est que cette île du Ramier est au milieu de la Garonne, un corridor écologique qui a été orienté en fait sur la desserte du parc des expositions jusqu'à maintenant et de fait. Et dont il faut en changer la destinée et faire en sorte que ce corridor écologique qui voit des interruptions significatives de la continuité végétale, par exemple, soit transformé pour que la continuité végétale puisse être assurée d'une part, et puis aussi le développement de la faune, parce qu'il y a une faune là, qui a été investiguée par c'est le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse qui intervient là-dessus, et qui donc En restaurant ces continuités, une continuité végétale, on restaure une continuité en termes de biodiversité, on restaure une continuité en matière de faune.
C'est-à-dire qu'il y a des espèces animales qui vont se réinstaller sans doute, alors qu'ils ne pouvaient plus le faire, ou qu'ils ne pouvaient plus circuler en tout cas.
Exactement, et qui ne pouvaient plus circuler, et qui se retrouvaient à un espace réduit, et donc limité dans leur expansion et dans leur vitalité.
La renaturation du site, la végétalisation, qui en est l'architecte ?
Alors, la renaturation du site, ça fait partie des compétences scientifiques dans lesquelles le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse a œuvre d'une façon extrêmement pertinente. Il s'entoure de scientifiques et de spécialistes en la matière. À partir de l'inventaire qui a été fait en matière d'espèces végétales, la sélection des espèces, le choix des espèces se fait en partenariat avec tous ces scientifiques, avec le muséum, de façon à ce que la flore et la faune aussi soient finalement le plus adapté au site, de la proximité aquatique, le plus adapté à la configuration géographique de l'île du Ramier.
Donc il y aura des essences d'arbres qui seront plantées en fonction de cet état des lieux.
Absolument, en fonction de l'état des lieux, en fonction des capacités d'accueil en matière de l'île, en matière végétale, et puis en fonction aussi avec le souci de créer une harmonie un peu globale sur l'île.
Alors, est-ce qu'on a évalué les gains, les bénéfices sur la qualité de l'air que ce nouvel espace végétalisé va apporter à la métropole toulousaine en termes d'empreinte carbone et d'émissions de dioxyde de carbone ?
Alors, de fait, cet impact existe clairement. On revégétalise, donc l'impact carbone existe. Mais nous avons choisi de le monitoriser, c'est-à-dire de nous avons confié à une entreprise le soin d'évaluer au fil du temps. Et d'ici à 2025, finalement, qui sera le terme de ce projet, à évaluer l'impact sur la qualité de l'air. Cet impact, il existera d'une part parce que la revégétalisation, qu'on vient de le dire, la requalification des sols va apparaître petit à petit d'une façon extrêmement forte, mais aussi parce que sur le plan de l'accessibilité et des déplacements, les choses seront modifiées, considérablement modifiées. La place du piéton sera majorée. La place du vélo sera également majorée. Il y a des passerelles, 4 passerelles qui seront disposées pour permettre l'accessibilité qui n'existe pas encore sur l'île, qui seront disposées de façon à ce que les piétons puissent accéder à l'île.
Et là aussi, il va y avoir une continuité qui va s'installer, qui n'existait pas ou qui n'existait plus.
Absolument. Et cette continuité qui avait été imaginée d'ailleurs dans le temps, cette continuité sur toute la longueur de l'île, nord-sud, qui est ce corridor écologique et de biodiversité, sera rétablie très clairement, à la fois sur les ripisylves, sur les berges, mais aussi à l'intérieur de l'île.
Donc l'inauguration du parc de l'île du Ramier, c'est quoi ? C'est 2025, c'est ça ?
Le programme va jusqu'en 2025, oui. 2025,
ça. Le coût global de l'opération et les financeurs, c'est peut-être intéressant de savoir.
Alors, comment c'est financé. Si vous permettez, ce que je voudrais dire, c'est que, et c'est important parce que ça a été clé pour nous, c'est que l'Europe accompagne ce projet. C'est le projet Life Green Art, qui est le projet dans lequel l'Europe a souhaité nous accompagner à hauteur de 2,7 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, sur les 5 ans de ce projet, sur le suivi du retour de la biodiversité. Hein, ce sont des indicateurs qui vont nous permettre de suivre la biodiversité et l'accroissement de la biodiversité. Il s'agit d'identifier les évolutions qui seront générées par le reverdissement de l'île du Ramier. Donc ça, c'est un point important. Alors après, en matière de coûts, c'est difficile de donner un coût estimatif là-dessus. Je vais me garder de le faire très précisément aujourd'hui. Simplement, nous sommes dans une phase qui est une phase actuellement de démolition. La phase de revégétalisation et identification suivra, et donc l'approximation sur les coûts sera affinée dans les mois et les semaines qui viennent.
Est-ce que plus largement, le parc de l'île du Ramier, c'est aussi une pièce maîtresse de ce qu'on appelle le Grand Parc Garonne ?
Ah oui, c'est clairement une des pièces maîtresses du Grand Parc Garonne. Le Grand Parc Garonne, c'est l'ensemble des aménagements qui sont faits sur la Garonne et sur les berges de la Garonne, et qui dépassent Toulouse d'ailleurs, ça s'étend jusqu'en aval et en amont de Toulouse sur la métropole. Cet aménagement touche Blagnac, etc.
Jusqu'à Seille.
Puis il y a des réalisations qui seront faites en parallèle. Donc c'est vraiment un concept d'ensemble que le Grand Parc Garonne, au sein duquel c'est vrai que l'île du Ramier a une place qui est un peu emblématique quelque part de cette intention de remettre la nature en ville. Il y a une part plutôt historique autour de la Dorade, etc., de ce Grand Parc Garonne, mais il y a là une place très particulière pour la nature en ville.
Et est-ce que ce parc de l'île du Ramier constitue lui aussi une pièce essentielle du plan climat air énergie territorial de Toulouse Métropole ?
Ah, c'est clair aussi. C'est clair aussi dans la mesure où ça fait partie des objectifs du plan climat air énergie territorial que de pouvoir avoir un impact sur la production de CO2. Les engagements du plan climat air énergie territorial, ils sont importants. Nous nous sommes engagés à diminuer la production de gaz à effet de serre, de CO2, de 40% entre 2008 et 2030. Et donc l'impact carbone là est important à travers le verdissement, la modification des transports et des règles de transport en commun sur l'île du Ramier. Donc ça s'intègre pleinement dans les objectifs du plan.
Alors le développement durable est annoncé comme le fil conducteur de tous les projets de la métropole. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment est-il intégré dans vos réflexions ?
Il est intégré systématiquement dans tous les projets qui émanent de la métropole. Si je prends par exemple les questions d'aménagement, les questions de logement, les questions d'urbanisme, l'adéquation au développement durable est en amont des projets évalués et discutés. Si on prend la question des déchets, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on réfléchit sur la façon de traiter les déchets au mieux du développement durable. Si on prend la question des déplacements, qui sont eux aussi au centre de tout cela, ça fait partie. L'implication de développement durable est importante. Par exemple, je cite cet exemple, mais Tisséo a souhaité pour la première fois créer en son sein une commission de développement durable, de façon à adapter au mieux les développements des transports en commun et des déplacements aux conditions de développement durable.
Ça veut dire aussi que, par exemple, le recyclage, la récupération de matériaux ou de matériel, comme dans le cas de la démolition du parc des expositions, c'est un prérequis dans tous vos projets.
C'est un prérequis en particulier dans toutes les opérations de bâtiments, mais pas que. C'est un prérequis dans l'ensemble des projets. Et il y a d'ailleurs un axe de travail, une commission qui travaille là-dessus au sein de la métropole, dans l'économie circulaire, qui est dédiée justement à travailler sur ces sujets-là.
Alors, on parlait de qualité de l'air tout à l'heure, et le plan climat air énergie territorial en est un exemple, bien sûr. Pour améliorer la qualité de l'air, quelles sont les actions que vous allez mener ? Quels sont les projets dans ce domaine ? Je crois qu'il y en a plusieurs.
Alors, écoutez, il y a plusieurs projets. La qualité de l'air, c'est une préoccupation importante puisqu'il a des conséquences en matière sanitaire, en matière de santé, et Dieu sait si aujourd'hui c'est important en plus. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est de faire en sorte que les particules fines, que les polluants et les oxydes d'azote diminuent dans l'air respiré sur Toulouse. Et c'est ça la grande idée. Actuellement, sur Toulouse, il y a un peu moins de 10 000 personnes qui vivent encore avec des dépassements de seuil permanent. Ça, c'est trop, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous allons mettre en place une ZFE, une zone à faible émission, qui est ce périmètre urbain au sein duquel les véhicules les plus polluants ne pourront plus circuler. C'est à l'image des autres métropoles, mais cette zone à faible émission sera mise en place au mois d'avril 2021, donc à une échéance qui est une échéance. Ça, c'est une action extrêmement concrète.
C'est l'étude, ça, voilà, c'est l'étude.
C'est en phase de réalisation. D'accord. Elle sera votée le 17 décembre au Conseil de métropole.
Et puis, il y a pas mal d'actions aussi pour pousser les gens à utiliser le vélo.
Alors, ça fait partie, effectivement, des incitations qui sont importantes. Et vous allez voir au Conseil de métropole des subventions qui seront à destinée des particuliers, des professionnels aussi, pour pouvoir changer de véhicule et changer les vieux véhicules diesel en véhicules plus propres. Vous aurez des aides aussi qui seront destinées aux particuliers en matière de vélo, en matière de vélo cargo, en matière de vélo électrique, en matière de location de vélos, de façon à ce que, sur le plan budgétaire, il puisse y avoir un accompagnement des familles dans ce changement.
Et une incitation par la même occasion.
Et une incitation, absolument.
Eh bien écoutez, c'est déjà la fin de ce numéro. Le sujet est vaste et l'on se rend compte en vous écoutant qu'il concerne de très nombreux secteurs d'activité. Il est donc quasi omniprésent dans la gestion d'une collectivité, quelle que soit sa taille, encore plus lorsqu'il s'agit d'une métropole. Merci de nous avoir donné toutes ces explications et ces informations sur la politique de Toulouse Métropole en matière de développement durable et de transition énergétique, François Chollet. Et merci d'avoir été l'invité de cette émission. Nous allons suivre avec grand intérêt l'avancement du chantier du futur parc de l'île du Ramier. Je pense que beaucoup de Toulousains, de citoyens métropolitains, sont impatients d'y balader un jour à pied ou à vélo. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'action de Toulouse Métropole dans le domaine du développement durable, je leur conseille de se connecter à l'adresse www.toulouse-métropole.fr et d'y consulter la catégorie mission puis la rubrique développement durable où ils trouveront tous les détails et les documents explicatifs qu'ils souhaitent. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mais d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.